Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Les experts, spéciales élections européennes sur BFM Business.
Bonjour, Jade Grandin de L'Épreuvier.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. J'avais l'habitude de vous recevoir dans les studios parisiens, mais vous êtes aujourd'hui correspondante de l'Opinion à Bruxelles. Donc, comme je me dis, on venait à Bruxelles, c'était l'occasion de se retrouver. Roland Gillet, merci d'être resté avec nous. À la fois franco-belge, j'ai envie de dire, mais belge évidemment d'origine, professeur d'économie financière à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et également à l'Université libre de Bruxelles. Et puis, conseiller auprès de différentes autorités publiques et privées. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Rebonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié « Redécouvrir les physiocrates » chez Odile Jacob. Si quelqu'un peut m'apporter mon sac que j'ai laissé en régie, il y a le numéro de Pour les Côtes.
Bon, absolument.
Je l'ai quand même apporté de Paris,
oui,
je l'ai pas oublié.
Oui, j'avais vu ça, oui.
Mais il est resté dans mon sac qui est juste à l'entrée de la régie. Quelqu'un va sûrement... On parle de sport et de sport business notamment.
Oui, absolument.
À la une du numéro de Pour les Côtes. Jade Grandin de L'Épreuvier, je disais, qu'est-ce qui doit focaliser notre attention ? Un Parlement européen dont on se rend compte finalement que les grands équilibres pour l'instant à l'heure à laquelle nous parlons ne sont pas fondamentalement modifiés. Oui, il y a effectivement une poussée des droites les plus foncées, mais enfin pour que cette poussée des droites les plus foncées soit vraiment opérationnelle, ça supposerait que il y ait des alliances entre plusieurs formations qui pour l'instant n'existent pas. Donc on a toujours un Parlement européen qui est dominé par PPE. Tandis qu'effectivement, on en parlait dans le journal de Léo Dumas, eh bien, le parti du chancelier allemand est troisième force politique allemande. Mmh. C'était quand même le traditionnel parti de gouvernement marqué à gauche, un peu l'équivalent de notre PS. Et on a bien sûr le score du Rassemblement national qui a confirmé les sondages en France avec un score deux fois supérieur à celui de Renaissance, ce qui a poussé Emmanuel Macron à partir un peu dans la cognue à 21h hier en annonçant qu'il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale avec un premier scrutin le 30 juin et un second tour le 7 juillet. Qu'est-ce que vous retenez en priorité de l'événement européen ou des événements nationaux ?
C'est vrai que le paradoxe, c'est que pour le moment, on voit la majorité précédente au Parlement européen qui peut continuer, former, comme vous l'avez dit, de la droite classique, qui est confirmée, qui augmente un peu en siège, des socialistes, qui sont les deuxièmes au niveau du continent européen, contrairement à ce qui se passe en France, et des libéraux. Donc on voit qu'il y a eu 27 campagne nationale durant cette élection, c'est-à-dire c'est pas uniquement en France où on est focalisé sur la politique française, c'était dans tous les pays de l'Union européenne, il y avait des campagnes nationales. Et ce qui était très attendu, autant que de savoir est-ce qu'on allait recontinuer avec la même majorité européenne, c'était, comme vous l'avez dit, les messages nationaux en France et en Allemagne qui sont vraiment les deux moteurs de la construction européenne. C'est-à-dire qu'on savait que les résultats allaient être interprétés non pas seulement comme quels eurodéputés on envoie à Strasbourg, mais aussi à chaque fois, quelle est la conséquence politique pour les chefs d'État et de gouvernement dans leur propre pays ? Parce que ces chefs d'État et de gouvernement, ils sont de plus en plus puissants pour l'Union européenne au niveau du Conseil européen. C'est eux qui font la politique de l'Union. Donc, qu'est-ce que ça donne pour un Macron à Bruxelles, un Olaf Scholz à Bruxelles ? Et on a ces deux chefs d'État qui sont tous les deux fragilisés par les résultats nationaux, avec un Olaf Scholz, comme vous l'avez dit, où on voit l'AFD qui passe de 7 eurodéputés à 16 eurodéputés, donc c'est énorme. Et pour la France, on aura, et c'est quand même très symbolique, la première délégation d'eurodéputés français à Strasbourg, ça sera le Rassemblement National, avec une trentaine d'eurodéputés. Et il faut savoir que ça sera une des plus grosses délégations nationales au Parlement européen. Ça sera les Français du Rassemblement National.
En gros, les Français du Rassemblement National seront une des plus grosses délégations.
En gros, 30 eurodéputés avec les Allemands de la CDU-CSU. Donc ça sera les deux grosses délégations, ça sera français RN et allemand de la CDU-CSU. Donc là, il y a toute une séquence qui va s'ouvrir de recomposition des alliances européennes, avec une question majeure qui sera est-ce que les extrêmes droites arrivent à s'allier ?
C'est ça. Hein.
Mais pour le moment, on pense que ça ne sera pas possible parce qu'ils sont tellement nationalistes, si je résume, qu'ils n'arrivent pas à faire de compromis entre nationalités. On continuerait avec la même majorité, pourquoi pas avec Ursula von der Leyen ? Et au final, les plus grosses questions qui se posent, c'est, comme vous l'avez dit, ce qui s'est passé en France. Quelle résonance ça aura sur la scène européenne, avec jusqu'à présent les Européens qui craignaient que la France bascule vers le RN en 2027. Et finalement, ils se disent, mais si ça arrive dès demain, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne ?
Effectivement, si on imagine qu'il y ait une vraie force politique de l'ensemble des droites les plus dures, ça signifierait que les conservateurs CRE, les conservateurs et réformistes européens réussissent de Giorgia Meloni, réussissent à s'entendre avec Identité et démocratie de Jordan Bardella. L'AFD, jusqu'à nouvel ordre, est quand même exclue de ID.
Elle est exclue temporairement.
Voilà, compte 15 sièges. Hein.
Voilà, elle pourrait y revenir, parce que 15 sièges, c'est quand même énorme. Donc, il y a des discussions sur à quelles conditions pourrait-il revenir dans ID.
15 ou 16, d'ailleurs.
Oui, moi, j'avais vu 16 hier à 2h du matin.
Tout ça, effectivement, est un peu mouvant encore à l'heure à laquelle on parle. Il y a aussi Fidesz, de Viktor Orban, dont le sort est pour l'instant un peu incertain, mais qui est dans une logique intellectuelle assez proche de ses familles politiques. On ne sait pas non plus ce que va faire le parti démocratie civique que préside le Premier ministre tchèque, qui a quand même beaucoup d'incertitudes sur la capacité à créer une grande famille ou pas au Parlement européen. Est-ce que vous partagez, messieurs Roland Gillet et Jean-Marc Daniel, la lecture que nous faisait à l'instant Jacques Grandin de l'Éprevier, de finalement la question centrale qui nous occupe ce matin, c'est à mon avis effectivement l'analyse de Jade.
Oui, je partage son point de vue, je rapporterai quand même quelques compléments. Le premier complément, c'est que
Jean-Marc
je pense
Daniel.
Que les grands perdants de cette affaire, c'est les écolos. C'est-à-dire que c'était,
ah oui, non, mais
scrutin,
ça,
c'était un scrutin.
J'en avais même pas parlé, Jean-Marc.
Oui, c'était un scrutin qui, normalement, leur était relativement favorable. Je rappelle ce que disait Margaret Thatcher. Il disait, faire élire le Parlement européen à suffrage universel, c'est donner la prime aux extrémistes, aux farfelus, puisque les peuples se défoulent à ce moment-là. Et normalement, elle disait, nous allons avoir des parlements dominés par des communistes et des écologistes. Alors, des communistes, il n'y en a plus. Et en France, vraiment, là, ils ont complètement disparu. C'est même, on annonce même plus combien ils ont fait. On ne sait pas combien. Il y avait un jeune brillant qu'on voyait dans tous les débats.
Oui, Desfontaines, je crois qu'il est en dessous de 3%.
Oui, il est tout ça. Et les écologistes sont marginalisés. Or, c'est quand même un des enjeux qui est souvent mis en avant au niveau international. C'est un des enjeux qui est répété dans tous les sommets, que ce soit le G20, le G7 et tout ça. Et là, la population manifeste son opposition, en tout cas ses doutes sur les stratégies autour des écologistes et autour d'une forme d'écologie punitive. La deuxième remarque que je ferais, c'est que on a l'habitude de dire qu'il y a une Europe du Nord et une Europe du Sud, il y a vraiment une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest maintenant. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Quand on regarde par exemple en Allemagne...
Dans l'Europe de l'Ouest, vous avez une partie qui tend vers les 60% et une partie qui tend vers les 120% de dette publique.
Oui, non, mais en termes de politique, en termes de résultats, c'est-à-dire quand vous regardez en Allemagne, par exemple, l'AFD pratiquement est le parti majoritaire dans l'ex-Allemagne de l'Est. Quand vous regardez dans toutes les anciennes démocraties populaires, vous avez une forte poussée de la droite et de l'extrême droite. Il y avait des élections en Bulgarie qui étaient des élections simultanément aux élections européennes et c'est la droite, enfin les gens qui sont en progrès, c'est la droite sortante. Et puis, c'est les pro-Poutine qui ont fait une nouvelle percée avec un discours franchement anti-européen et franchement anti-soutien à l'Ukraine. Donc, il y a véritablement une sorte de césure. Donc, le Nord et le Sud, c'était les endettés et les épargnants. Et là, maintenant, Est-Ouest, il y a ceux qui se reconnaissent vraiment dans le projet européen et il y a ceux qui ne comprennent pas qu'on les traite aussi mal. Parce que je crois que... Et la dernière remarque que je ferai, c'est par rapport au couple franco-allemand. Je pense que le couple franco-allemand est amoindri. Il l'avait déjà constaté à la dernière réunion de ce qu'on appelle le triangle de Weimar, c'est-à-dire il y a les Français, les Allemands et les Polonais. Et d'abord, ça s'est fait à des niveaux au chef de l'État. Ils ont pris prétexte que c'était les 275 ans de la naissance de Goethe pour se retrouver à Weimar où il est mort. Donc on a un peu parlé de Goethe et surtout on a parlé beaucoup de la montée en puissance justement de ces pays d'Europe de l'Est qui se considèrent comme maltraités et qui vont, à mon avis, peser beaucoup dans le destin de l'Europe avec cet amoindrissement du leadership aussi bien en Allemagne qu'en France.
Non, mais c'est ce que vous avez remarqué, Ben Aouda Abdedaïm, c'est qu'on a quand même des pays, parmi les pays fondateurs de l'Union européenne, qui ressortent à titre individuel, à titre national, fragilisés.
Ah oui, le seul qui s'en sort bien, c'est l'Italie, parce que les deux autres sont véritablement...
Oui, l'Italie, effectivement, Giorgia Meloni a gagné son pari. Enfin, oui. Vous dites que les écologistes... Je pense que Marie Toussaint est quand même contente d'avoir fait plus de 5, hein.
Oui,
parce que sinon, c'était exit. Hein.
Oui, j'entends bien, mais sur le papier, elle était sur une élection qui aurait dû lui apporter 10 à 15% de suffrages.
Juste un mot, Jade, et puis après, je fais réagir Roland Gillet.
Oui, non, c'est ce qu'a reconnu la tête de liste européenne des Verts hier soir. C'est le seul qui a vraiment dit c'est un échec, enfin, on n'est pas trop content des résultats. Et lui, son analyse, c'était 2019, c'était l'élection du climat, tout le monde était derrière. Et 2024, on a oublié, les partis politiques ont mis ça à la trappe. La vraie question, ça sera, est-ce qu'on continue la politique environnementale ? Comment on fait, sachant que la droite a beaucoup fait campagne en disant faut arrêter avec les normes vertes ? Et là, ça va être intéressant politiquement pour les Verts qui sont complètement amoindris, qui vont essayer de continuer à peser au Parlement européen, mais ça va être très compliqué pour eux. Ils vont essayer d'être un peu une force d'ajustement d'une majorité centriste, mais on voit qu'ils n'arrêtaient pas de tendre des mains à leurs partenaires parce que leur pouvoir a énormément diminué avec ces élections.
Oui, il y a trois sujets forts hein, sur les questions écologiques. Que va-t-il rester de cette date de 2035 à terme pour l'arrêt des ventes de voitures thermiques neuves? La question du Green Deal qui a commencé déjà à être un peu déconstruit à la suite de la crise des agriculteurs. Et puis, va-t-on ou pas aller vers un MACF, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, vraiment opérationnel, vraiment efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par rapport à tout ce qu'on a dit, Roland Gillet, vous vous retrouvez ou on évoquera les questions éco immédiates avec les réactions de marché.
Je me retrouve totalement, mais il y a un point qui est essentiel et qui, à mon avis, on n'a pas encore abordé maintenant, c'est le volet de comment on nous regarde de l'extérieur dans les grands blocs. Par exemple, comment c'est interprété aux États-Unis, comment la Chine voit ça, l'Asie de façon générale, et même la Russie. C'est vrai qu'ici, avoir les deux plus grands qui sont en incertitude et dont un doit attendre encore un mois avant qu'on ne révèle ce qui va se passer, à un moment où j'ai l'impression que beaucoup de jours qui passent nous éloignent quand même de la compétitivité par rapport aux Américains, même s'ils ont des problèmes internes.
Et comme c'est gentiment sont... dit, Roland.
Mais j'essaye de le dire gentiment.
Comme c'est gentiment
dit. Je préfère le dire gentiment qu'autrement. Parce que c'est vrai qu'il va falloir savoir quand même que même si Meloni en Italie est effectivement, elle, confortée, et que c'est un des pays qui est quand même, en termes de gestion de son endettement et gestion de façon générale de ses banques et autres, a eu des soucis par le passé, et heureusement, Mario Draghi a fait une partie du chemin, et Meloni a l'air de continuer dans ce sens-là. On voit un autre pays, l'Espagne d'ailleurs, où aussi, c'est pas simple, et où pourtant, ils obtiennent aussi des résultats au niveau économique, et on voit qu'on a un tout petit semblant de croissance qui revient en Europe, et pour lequel on peut se féliciter. Et donc, clairement, si on veut effectivement exister sur le plan international, il ne faudrait pas que, comme on a fait par le passé, ce soit un non-alignement ou un alignement des intérêts individuels nationaux au détriment d'un alignement des intérêts communs européens. Et ça, j'ai un peu peur quand
Mais
même.
Vous avez la réponse, Roland, à ce que vous dites. Vous savez très. Vous avez bien vu sur l'union bancaire depuis combien d'années on bosse
dessus. C'est pour ça que
l'union des marchés de capitaux, ça fait 10 ans. Et c'est toujours sur des points de détail qui sont des points de non-alignement qu'on n'arrive pas à boucler ce genre de sujet.
Regardez de nouveau le Green Deal. On
la réaction par rapport aux Chinois.
On a mis beaucoup d'argent et on a même été au-devant de la scène pour aller loin à ce niveau-là. Mais on sait très bien maintenant que c'est quand on va aller dans l'opérationnel et le retard qu'on verra si tout ce qu'on a décidé, d'abord on en a les moyens et avec quels moyens on va pouvoir y aller année après année, étant donné quand même qu'en termes de coût de l'énergie, électrique comme autre, nous ne sommes pas des gens qui, par rapport aux Américains, avons un avantage compétitif. Donc clairement, on va voir comment on peut se permettre, au-delà des idées et auxquelles je peux souscrire, que la planète, on n'en a qu'une et qu'il faut faire attention, comment est-ce qu'on peut se comporter sur la scène internationale pour qu'on soit crédible.
Sur la compétitivité, je réagis à chaque fois au propos de Mme Roland en disant simplement une chose.
Daniel.
Les exportations de l'Union européenne aux États-Unis, 590 milliards de dollars.
Oui.
Les importations en provenance des États-Unis, 360 milliards de dollars. Nous avons un excédent sur les États-Unis de 140 milliards de dollars. Je ne sais pas qui est le plus compétitif. Sur la Chine, l'année dernière, en 2020...
Vous êtes constant, moi, Jean-Marc.
Oui, en 2022, 400 milliards de déficit. 2023, 295 milliards de dollars de déficit. Anticipé cette année, 150 milliards de déficit sur la Chine. On n'est pas si mal parti que ça en termes de compétitivité.
Roland, juste avant d'évoquer les réactions de marché, sur le côté, le discours traditionnel de Jean-Marc, tout va pas si mal et tout va peut-être bien.
Mais je n'ai jamais dit que tout allait si mal. Je dis qu'on a tendance quand même à ne pas voir non plus que je maintiens que tout commerce est important. Mais je pense qu'il y a de grosses différences entre ce qui va probablement être ce qui développe des GAFA au niveau mondial et que l'Europe a très difficile à mettre en place au niveau international, premier élément. Deux, au niveau de l'intelligence artificielle, pour ne parler que ça. Pour le moment, même si on fait de gros efforts en Europe et qu'on met du financement aussi, je vois quand même que c'est de nouveau aux États-Unis que ça se passe. Si on regarde au niveau croissance économique, ce qui est quand même important aussi, et au niveau de la suprématie du dollar dans les échanges internationaux, la crédibilité des États-Unis sur différents éléments, on a déjà eu aussi des débats aussi. Et je vois qu'il y a... On connaît Jean-Marc, on a beaucoup d'échanges là-dessus. Et ce qu'il dit est vrai, bien entendu, sur le volet, c'est un des éléments. Mais je pense qu'il n'y a pas que celui-là.
Je suis d'accord
avec vous. Je pense que beaucoup d'Européens, par exemple, si vous prenez l'IRA, prenons juste ça, Inflation Reduction Act, il y a le mot inflation si on veut, mais c'est surtout un bon moyen de venir chercher justement nos compétences à bas prix et de le faire intelligemment. Parce qu'aux États-Unis, on vient créer de la valeur, on a un avantage quand la valeur est créée. Mais on l'a rapidement. Chez nous, on est déjà taxant avant même de l'avoir créé dans pas mal de secteurs. Et donc, je crois aussi qu'il faut regarder l'ensemble et vers l'orientation. On peut toujours regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a eu, mais il faut surtout regarder devant nous. Et je pense que les Européens étant désunis, c'est très difficile de mener une politique qui a un sens et qui va dans une trajectoire.
Je suis d'accord avec vous, l'IRA est très mal nommé, c'est un subvention act, c'est tout.
Subvention des fonds européens.
Oui, 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 tout à fait.
Que c'est grâce à l'IRA qu'on dégage des excédents maintenant sur le plan de notre balance des paiements courants sur les États-Unis.
Juste avant de marquer une pause, d'ici une petite minute, est-ce que vous considérez qu'un euro qui tombe à 1,07 et un CAC 40 qui ouvre à près de moins 2%, c'est tous aux abris warning ou pas?
Non, à ce stade, pas encore. De toute façon, les élections françaises vont avoir lieu dans un mois. En un mois, on va décanter un peu les choses, mais de notre côté, ça va pas avoir d'impact considérable. Quand on regarde historiquement, c'est pas tellement les élections en tant que telles, c'est la stratégie que met en place le vainqueur. La dernière fois qu'il y a eu une vraie rupture en France sur le plan de la politique économique, c'est en 81. Et effectivement, la seule traduction la plus concrète que nous avons eue, c'était une débandade du franc, à laquelle a été répondu par une dévaluation, puis une dévaluation, puis une dévaluation, puis la rigueur. On verra au mois de juillet ce qui va se passer. Quand la gauche a regagné en 1997 avec un programme qui était aussi un programme assez aberrant, la force de Jospin, c'est d'avoir renoncé très rapidement à toutes les mesures idiotes, sauf les 35 heures qu'il a gardées. Il ne pouvait pas abandonner toutes les bêtises. On est socialiste ou on ne l'est pas. Il faut quand même qu'on garde une bêtise quand on est socialiste. Donc il a gardé les 35 heures.